bonjour à tous. Alors, je vais donc vous parler des passions d'Andromaque. Je vais sans doute dire beaucoup de choses que vous savez déjà. Je m'en excuse d'emblée. J'espère que mon propos vous sera quand même utile. Alors, bon, comme vous le savez, le discours sur la passion au XVIIe siècle est pris dans un contexte qui donne une grande place à cette question. D'accord, je vais essayer de parler plus fort, mais s'il y avait un micro.
C'est vrai qu'il n'y a pas de micro.
Bon, je vais essayer de parler plus fort, j'espère que je vais y arriver. Le XVIIe siècle est un moment où la passion est au centre d'un faisceau de discours sur lesquels je reviendrai pendant ma communication, mais que j'évoque là rapidement pour donner le cadre global en introduction. Donc le discours moral et religieux sur la passion qui tend globalement à une condamnation de la passion, j'y reviendrai. Le discours galant qui, au contraire, valorise l'amour, qui devient un facteur de civilisation. Le discours scientifique et philosophique dans lequel on voit naître un intérêt pour la physiologie et la sémiologie des passions et qui conduit, qui est pris dans un processus global de revalorisation des passions qui sont considérées progressivement comme une partie intégrante de l'être humain, et ça aboutira bien après, au XVIIIe siècle, à la valorisation de la sensibilité. Hein, je trace ici des traits très grossiers. Hein. Et puis, donc, le discours dramatique, qui est celui sur lequel moi je vais m'arrêter un peu plus, dans lequel la passion est absolument centrale. Hein, dans la théorie dramatique du XVIIe siècle, la passion a une place très importante, puisqu'elle est à la fois la source du plaisir du spectateur, le sujet du spectacle en partie, et donc la visée du théâtre, le plaisir s'exprimant parfois et souvent paradoxalement dans les larmes. Et évidemment, on pense tout de suite à la dédicace de Racine qui s'adresse donc à Henriette d'Angleterre, la cousine du roi, et qui évoque les larmes dont elle a gratifié la pièce, qui sont la preuve donc du plaisir qu'elle a éprouvé à voir la pièce. Donc la passion est prise dans un faisceau de discours ambivalent qui à la fois donc d'un côté la condamne, de l'autre la valorise, et c'est tout l'intérêt du sujet évidemment. Donc encore une fois je reviendrai un peu plus précisément sur tout ça, et je m'arrête un tout petit peu sur la question de la passion dans la théorie théâtrale, dans la théorie dramatique de l'époque, en introduction. Donc vous savez que dans la théorie, encore une fois, l'effet du théâtre, l'effet dramatique est pensé sur le modèle de la contagion émotionnelle qui avait été formulé déjà par Platon dans son dialogue Ion. Et donc je donne ici quelques citations, vous en avez dans l'édition d'Andromaque, dans le dossier, beaucoup aussi, hein, donc vous aurez l'occasion, de, si vous l'avez déjà fait, de lire tout ça. Dans ses observations sur le Cid, donc texte qui a très largement contribué à la querelle qui a suivi le très grand succès de la pièce de Corneille en 1637, Scudéry écrit « Le poète se propose pour sa fin d'émouvoir les passions de l'auditeur par celles des personnages ». Donc ce sont les passions des personnages qui se transmettent aux spectateurs. Et en 1639, dans sa Poétique, la Ménardière précise plus encore mieux ce processus. Ce commerce est naturel aux productions spirituelles, que les passions violentes et naïvement exprimées passent d'une âme dans l'autre. Les passions passent d'une âme dans l'autre. Le spectateur s'afflige quand la personne théâtrale pleure. Il est gai lorsqu'elle est contente. Si elle gémit, il soupire. Il frémit si elle se fâche. Bref, il suit tous ses mouvements et il ressent que son cœur est comme un champ de bataille où la science du poète fait combattre, quand il lui plaît, 1000 passions tumultueuses et plus fortes que la raison. Donc ça, c'est le discours théorique, encore une fois, sur le théâtre, dont vous voyez, qui donne une grande place à la passion et qui pense le mécanisme de transmission des passions sur le modèle de la contagion de la passion. En fait, c'est une contagion à trois composantes. Là, je n'ai pas mis toute la citation de la Ménardière, mais il évoque d'abord les passions ressenties par l'auteur au moment où il écrit, qui donc se manifestent ensuite dans le personnage et se transmettent au spectateur. Bon, c'est la fameuse chaîne des passions, donc sur le modèle de la contagion. Alors, voilà donc le contexte très large. Et il y a aussi, vous savez que l'effet de ce fameux effet de la passion, du théâtre, est pensé aussi très largement à partir du modèle de la rhétorique. Rhétorique notamment aristotélicienne, et bien sûr aussi avec des références romaines chez Cicéron. Hein, Aristote, dans sa rhétorique, donne aussi une importance à la passion dans l'effet du discours, pour penser l'effet du discours. Et c'est aussi cette conception rhétorique du discours qui influence la pensée de l'effet dramatique. Donc je vous donne ici une des citations de la rhétorique. « La persuasion est produite par la disposition des auditeurs quand le discours les amène à éprouver une passion. » Car l'on ne rend pas les jugements de la même façon selon que l'on ressent peine ou plaisir, amitié ou haine. Donc le discours doit provoquer une passion chez son auditeur pour l'amener à juger de telle ou telle façon l'objet du discours. Donc la passion contribue à la réception par l'auditeur du discours. Voilà donc le contexte tracé encore une fois un peu grossièrement. Alors, désolée du caractère un peu pédagogique de la chose, mais j'ai articulé mon propos en trois points, en trois temps. D'abord, je voudrais resituer la question de la passion dans la dramaturgie racinienne pour montrer à quel point c'est une spécificité de sa dramaturgie et comment donc cette spécificité permet de comprendre la place de cette dramaturgie dans l'ensemble des dramaturgies du siècle, hein, donc la singularité de la dramaturgie racinienne. Ensuite, je vais évoquer un petit peu la représentation des passions dans Andromaque. Bon, c'est évidemment un sujet qui mériterait plusieurs conférences, et bon, j'imagine que vous ferez plusieurs cours dessus, donc je m'excuse d'emblée du caractère un peu court de cette partie. Et puis, en troisième partie, je vais m'interroger sur... cette question qui donne son intitulé au programme, Un monde de passion, en me demandant dans quelle mesure on peut voir, à travers cette représentation dramatique des passions chez Racine, une vision du monde. En tout cas, est-ce qu'on peut, derrière cette représentation, imaginer un propos de Racine sur le monde et sur la place de la passion dans le monde. Alors, donc, la dramaturgie racinienne et les passions. Chez Racine, la passion a une très grande importance. Bon, c'est un topos de la critique. On l'a depuis très longtemps dit. Déjà à l'époque de Racine, hein, il a été identifié comme un dramaturge de la passion, en particulier de l'amour, qui se décline évidemment chez lui. Je vais y revenir, en jalousie, colère, zèle, etc. Alors, je cite très rapidement des moments critiques importants qui ont donné toute sa place à cette question de l'amour. Alors, Eric Auerbach, dans son article « Racine et les passions », tout ça est très bien repris dans votre édition, donc je passe assez vite, qui explique qu'avec Racine, on passe de la fatalité externe, qui est la fatalité antique, à une fatalité interne, avec... cette place de l'amour à l'intérieur du sujet qui deviendrait donc la puissance irrépressible qui remplace celle des dieux antiques. Michel Foucault, dans son Histoire de la folie, qui voit dans Oreste une figure emblème de la proximité entre passion et folie au XVIIe siècle, par opposition à l'Antiquité qui distingue passion et folie, et qui voit dans la folie la punition de la passion. Et donc, il analyse en particulier la folie d'Oreste à la fin d'Andromaque, en insistant sur la place d'Hermione dans la vision d'Oreste, qui remplace d'une certaine façon les Érinies antiques. Donc, les Érinies qui figuraient cette punition antique. Hein. Et puis, dernière étape, Thierry Monnier, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, bien entendu, Thierry Monnier, dans son Racine, qui écrit « Racine a su, depuis Andromaque, donner à la passion et à la jalousie leur place parmi les grands malheurs et les grands crimes, unir l'une et l'autre aux parricides et aux incestes, imputer aux passions des sens, des tentations et des meurtres égaux à ceux de l'ambition, de la haine et de la prédestination. » Donc, il caractérise... la dramaturgie racinienne à partir de cette place des passions qui remplacerait donc d'autres, j'ai envie de dire d'autres passions, en tout cas de la passion amoureuse, hein, la jalousie, qui remplacerait l'ambition, la haine, la prédestination. La prédestination, c'est pas une passion. Mais voilà, d'autres moteurs du tragique chez d'autres dramaturges. Et évidemment, derrière ces autres dramaturges, il faut voir beaucoup, très largement, Pierre Corneille, qui a été comparé à Racine dès le XVIIe siècle. Et donc, je vais revenir dans cette première sous-partie sur la singularité de l'esthétique racinienne par rapport à l'esthétique cornélienne. Vous connaissez très bien aussi le discours de Corneille sur l'amour, qui donne à l'amour une place secondaire par rapport à d'autres émotions plus digne de la tragédie, selon lui. Je cite très rapidement ce passage connu du discours de l'utilité des parties du poème dramatique de 1660. « Sa dignité demande quelque grand intérêt d'État, quelque passion plus noble et plus mâle que l'amour, telle que sont l'ambition ou la vengeance, et veut donner à craindre des malheurs plus grands que la perte d'une maîtresse. Il est à propos d'y mêler de l'amour, parce qu'il a toujours beaucoup d'agréments, mais il faut qu'il se contente du second rang dans le poème. » C'est précisément ce que Racine ne va pas faire. Il va donner le premier rang à l'amour, et c'est une des choses qui ressort très nettement dans la critique que Subligny va faire d'Andromaque, hein, vous savez, dans sa fameuse pièce « La querelle d'Andromaque »,« La folle querelle » ou « La critique d'Andromaque », pardon, dont vous trouverez quelques extraits dans l'édition du texte au programme, mais aussi que vous pouvez trouver intégralement dans l'édition de la Pléiade de Georges Forestier. Et donc je cite ce court extrait. « Monsieur de Corneille, alors je me resservirai de cette citation, donc je la lis maintenant en entier. Là, ce qui va m'intéresser, c'est cette notion de passion brutale qui apparaît au milieu. « Monsieur de Corneille aurait conservé le caractère violent et farouche de Pyrrhus, sans qu'il cessât d'être honnête homme. » Donc, d'après lui, chez Racine, Pyrrhus cesse d'être honnête homme et donnant moins d'horreur qu'il ne donne des faiblesses de ce prince qui ne sont que de pure lâcheté, il aurait empêché le spectateur de désirer qu'Hermione en fût vengée. Il aurait ménagé autrement la passion d'Hermione, il aurait mêlé un point d'honneur à son amour, ainsi afin que ce fût lui qui demandât vengeance plutôt qu'une passion brutale. Hein, donc, c'est ça qui m'intéresse ici. Il oppose donc la motivation d'Hermione chez Racine, qui serait une passion brutale, donc cet amour brut, à ce qu'elle aurait été, cette motivation, si Hermione avait été en fait une héroïne cornélienne, hein, qui est le modèle sous-jacent de sa critique, qui aurait été un point d'honneur. Hein, elle aurait voulu... elle aurait aimé Pyrrhus pour une raison d'honneur, ou en tout cas, elle aurait trouvé une motivation qui serait plus de l'ordre de la gloire que de l'amour. Donc, en tout cas, dans la lecture de Subligny, et toutes les critiques qu'il fait, hein, sont très largement portées par ce refus de la place que Racine donne à l'amour. Bon, je passe la suite. Donc, voilà l'esthétique cornélienne, donc, qui est une esthétique qui donne plus de place donc, à la gloire, à l'ambition, au sens de l'honneur qu'à l'amour. Et Racine se situe donc par rapport à cette dramaturgie cornélienne, mais aussi par rapport à un autre mouvement contemporain qui s'est développé juste avant l'écriture d'Andromaque, à partir de 1650, qui est la galanterie, donc qui connaît un essor... qui a été beaucoup analysé, hein, à partir de 1650, un sommet autour de 1670, donc vraiment au moment de l'écriture d'Andromaque. Donc c'est un mouvement qui n'est évidemment pas du tout seulement dramatique, qui est un mouvement social, qui est un mouvement littéraire, plus largement. Racine, on verra dans quelle mesure Racine absorbe certains aspects de ce mouvement, mais surtout il y a un théâtre contemporain de Racine, représenté notamment par Thomas Corneille et par Quinault, qui est un théâtre qu'on a qualifié de galant. Hein, ils écrivent des tragédies qu'on a caractérisées comme tragédies galantes. Alors c'est une catégorie critique, tragédie galante, qui est parfois remise en cause. Hein, on dit que c'est pas forcément une catégorie juste. En tout cas, eux ne se seraient pas revendiqués d'une telle catégorie. Les personnages ne sont pas forcément absolument conformes en fait à la théorie de la galanterie, à la galanterie sociale, etc. Bon, je n'entre pas dans ce débat. Mais en tout cas, ce sont des tragédies dans lesquelles l'amour est la motivation principale des personnages et dans laquelle les enjeux sont des enjeux essentiellement amoureux. Et il y a eu aussi toute une théorisation à l'époque de l'importance de l'amour dans la tragédie et du rapport qu'il y avait entre la représentation de l'amour dans la tragédie et les attentes du public et la réception du public. On a lié, déjà à l'époque, hein, ça a été repris ensuite par la critique, mais on a lié à l'époque l'évolution de la tragédie vers la galanterie et l'évolution de la société qui donnait de plus en plus de place à l'amour, notamment à travers l'importance sociale comprises les femmes dans la société à partir des années 1640-1650, notamment à travers le mouvement de la mondanité et des salons dans lesquels elles occupaient une place centrale. Donc, exemple de cette critique, de cette réflexion du temps sur les liens entre l'évolution sociale et l'évolution de l'esthétique en général, et dramatique en particulier, ces réflexions du père Rapin en 1674. La galanterie est davantage selon nos mœurs, et nos poètes ont cru ne pouvoir plaire sur le théâtre que par des sentiments doux et tendres. En quoi ils ont peut-être eu quelque sorte de raison. Car en effet, les passions qu'on représente deviennent fades et de nul goût si elles ne sont fondées sur des sentiments conformes à ceux du spectateur. C'est ce qui oblige nos poètes à privilégier si fort la galanterie sur le théâtre et à tourner tous leurs sujets sur des tendresses outrées pour plaire davantage aux femmes qui se sont érigées en arbitres de ces divertissements et qui ont usurpé le droit d'en décider. Bon. Voilà. Alors, bien sûr, en adressant sa dédicace à Henriette d'Angleterre, Racine, d'une certaine façon, entre aussi dans cette logique. Elle est devenue un arbitre du goût, c'est vrai, à l'époque d'Andromaque. Donc, en effet, il y a du vrai dans ce que dit Rapin. Bon, bien entendu, tout ça est à modérer. Et en tout cas, il y a une notion de l'époque qui traduit bien cette hésitation, cette ambivalence, cette tension de l'époque entre une réflexion sur l'esthétique qui prend en compte une réception extérieure, une donnée extérieure, celle de donc la sensibilité du temps et du public supposé, et une logique qui est plus celle d'une logique interne à l'œuvre, hein, qui évalue la perfection esthétique à partir de logiques internes, c'est la notion de bienséance. La notion de bienséance qui est une notion qui en fait est une notion vacillante, qui a qui donne lieu à des réflexions complexes dans la théorie du temps, puisqu'en fait elle hésite entre une caractérisation plutôt sociale et morale, hein, la bienséance serait que les personnages soient conformes aux attentes, à l'horizon d'attente, disons, sociale et morale de l'époque. Et donc elle hésite entre cette vision sociale et morale et une conception qui est plus dramatique, dramaturgique. Et la bienséance, ce serait que le personnage soit bien cohérent au sein de l'œuvre, hein, qu'il apparaisse bien tel qu'il a été introduit dans l'œuvre. Hein, c'est une des critiques qui est faite à la Chimène de Corneille au moment de la querelle du Cid. Quand, évidemment, on peut critiquer Chimène pour des questions morales, sociales, certains le font, mais il y a une critique centrale qui est que Chimène a été présentée comme une fille, une honnête fille, et qu'elle se comporte autrement. Finalement, c'est plus une question d'incohérence, parfois, dans les critiques, hein, qui choque la bienséance, qu'une question de morale, etc. Bon, donc évidemment, c'est un débat compliqué, hein, mais voilà, c'est important de voir que cette notion de bienséance, elle reflète cette hésitation de l'époque. Alors, Racine, dans tout ça, met donc la passion au centre, mais pas à la façon de la tragédie galante. Hein, une des choses, ça aussi, c'est un topos critique sur Andromaque. Ce qui aurait fait l'extraordinaire succès d'Andromaque, puisque Andromaque, bien sûr, a eu un succès exceptionnel, c'est la première des pièces de Racine qui a ce succès. Ce qui aurait fait le succès extraordinaire d'Andromaque, c'est l'alliance qu'il a trouvée entre une grande place donnée à l'amour, mais aussi une place donnée aux enjeux politiques et héroïques. Puisque dans Andromaque, il y a effectivement articulation entre des enjeux amoureux et des enjeux politiques. Une articulation étroite, puisque si Pyrrhus épouse Andromaque, évidemment, ça a des conséquences politiques. Hein. La mort d'Astyanax est évidemment un des points d'ancrage de cette question politique. Et puis le mariage entre Pyrrhus et Hermione aussi est souvent évoqué comme un enjeu politique. Il s'agit pour Ménélas d'allier deux Grecs, de royaumes grecs, plutôt que de permettre l'alliance d'un Grec avec une Troyenne. Hein, donc c'est aussi une question politique. Donc il y a ces deux questions, la mort d'Astyanax et le mariage Pyrrhus-Hermione, qui donnent une dimension politique à la pièce. Et puis, la grande spécificité de Racine, pardon, c'est que c'est la passion amoureuse qui engendre le péril d'État, hein, et pas l'inverse. Enfin, que la passion amoureuse n'est pas articulée secondairement au péril d'État, c'est vraiment la passion amoureuse qui déclenche cette question politique. Hein, c'est parce que Pyrrhus aime Andromaque que la Grèce est en danger, sur le plan politique. Voilà. Alors, cette dramaturgie de Racine suppose une réinterprétation de la théorie aristotélicienne du caractère que, justement, Racine rappelle dans la préface d'Andromaque, dans les deux préfaces, donc cette fameuse théorie du caractère intermédiaire. Je ne cite pas la préface, j'imagine que vous l'avez en tête. Racine évoque cette bonté médiocre qui doit être celle du héros de tragédie. Donc il traduit le caractère intermédiaire aristotélicien à travers cette notion de bonté médiocre. Et il construit ce que Georges Forestier appelle des héros à double face. Je vous renvoie à l'ouvrage de Georges Forestier, Passion tragique et règles classiques. Des héros à double face, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des personnages qui ne sont pas entièrement passionnés. Contrairement à ce qu'on a parfois dit des héros raciniens, Georges Forestier montre qu'en fait, ils ne sont pas entièrement passionnés, ils ne sont pas dominés par le pathos, mais qu'il y a bien une articulation chez eux entre éthos, donc caractère au sens cornélien du terme, hein, éthos, sens du devoir, caractère conforme à ce qu'on attend d'un prince, par exemple. Hein, Pyrrhus est un prince, et donc il a certaines dimensions de son éthos de prince, et pathos. Il y a une articulation entre les deux, et la particularité des héros raciniens, c'est que le pathos parvient parfois à subvertir l'éthos. Mais ça ne veut pas dire que l'éthos n'est pas présent, il reste présent. Et alors que chez Corneille, c'est l'éthos qui l'emporte toujours sur le pathos, chez Racine, le pathos parvient à subvertir l'éthos. Mais ce qui fait la singularité des héros raciniens, c'est qu'ils restent malgré tout des personnages héroïques, même quand ils sont bouleversés, qu'ils n'arrivent pas à vaincre leur pathos. Il y a chez eux quelque chose qui reste de leur éthos. Ils se jugent eux-mêmes comme étant bouleversés par les passions. Je donnerai quelques citations tout à l'heure qui le montrent. Voilà. Et donc, une des choses sur lesquelles Racine joue, c'est aussi Georges Forestier qui le montre, c'est la disjonction qu'il peut y avoir entre deux critères aristotéliciens du caractère, la ressemblance d'une part et la convenance. Il y a plusieurs traductions évidemment des concepts aristotéliciens, je choisis cela. Ressemblance, convenance, c'est-à-dire qu'il y en a un qui demande, qui exige chez Aristote donc, que le personnage soit conforme à ce que la tradition a légué de lui, donc Pyrrhus est farouche et violent, voilà, donc il est conforme à la tradition, hein, et c'est un des arguments que Racine utilise dans sa préface pour justifier de ne pas avoir rendu Pyrrhus complètement conforme au héros de roman, hein, de ne pas avoir fait de Pyrrhus un vrai galant. Donc ressemblance et convenance, l'autre critère aristotélicien qui lui demande que le personnage soit conforme aux attentes contemporaines, hein, qu'il corresponde bien au modèle social auquel il est censé appartenir. Et donc Pyrrhus, comme prince du XVIIe siècle, aurait dû être sans doute plus tendre. Et Racine joue de cette disjonction entre les deux critères aristotéliciens et se revendique d'Aristote pour rendre possible donc cette construction de héros à double face. C'est une formule qui est différente de la formule qu'avait choisie Corneille, mais Corneille avait en fait lui aussi trouvé un moyen, à sa façon, construire une vertu capable de faiblesse, de construire ce caractère intermédiaire aristotélicien. Chez Corneille, c'était souvent l'antinomie qui rendait ça possible, hein, l'antinomie, c'est-à-dire deux lois qui s'imposent aux personnages qui sont toutes les deux aussi légitimes et il doit choisir entre les deux. On dit souvent l'amour et le devoir chez Corneille pour simplifier. C'est aussi chez Corneille des choix de sujets qui permettent deux points de vue sur le même fait ou le même personnage. Par exemple, dans Cinna, Auguste est à la fois et double. Auguste est double. Auguste est Octave, le tyran sanguinaire qu'il est légitime de vouloir tuer, hein, c'est le projet de Cinna, mais il est aussi devenu Auguste, qui est un prince parfait, etc. Et finalement, dans l'histoire, Corneille a trouvé ce personnage à double face qui lui permet de construire les autres personnages aussi en lien avec ça. Même chose dans Polyeucte, par exemple. Le martyr, c'est une question ambiguë qui peut supposer deux points de vue, selon qu'on est chrétien ou selon qu'on n'est pas chrétien. Et donc, les personnages dans la pièce ont le droit de porter les deux points de vue sur l'acte de Polyeucte, sans qu'ils soient en tort. Hein, ils peuvent rester vertueux tout en condamnant Polyeucte et inversement. Bon. Racine trouve sa formule, disons, pour répondre à cette exigence aristotélicienne du caractère intermédiaire. Et on peut dire que dans Andromaque, le fait que les personnages soient des descendants de Troie et qu'ils insistent à plusieurs reprises sur le fait qu'ils vont rejouer la guerre de Troie, hein, donc là j'ai mis deux citations de Pyrrhus et Hermione, il y en a une d'Oreste aussi à la fin de la pièce, on peut l'interpréter, là c'est vraiment de l'ordre de l'interprétation et de la lecture, hein, comme une façon de se situer par rapport à l'esthétique héroïque de Corneille. Hein, d'une certaine façon, ce sont, ils vont rejouer Troie, mais sur un autre terrain que celui de Corneille. Hein, Corneille l'aurait fait. Corneille n'a pas écrit de tragédie troyenne, donc c'est plus simple, mais il l'aurait sans doute fait dans le contexte héroïque de la guerre, et Racine le rejoue dans le contexte plus intime du palais, et où les passions donc prennent plus de place. On peut lire aussi une forme de déchéance, bien sûr, dans ces héritiers qui cherchent à se comparer à leurs illustres prédécesseurs, mais qui ne sont pas à la hauteur. Ils le disent eux-mêmes souvent. Voilà. Alors, dernier aspect, le travail sur les sources dans Andromaque, qui évidemment construit cette place de l'amour. Alors là, il y a beaucoup de choses qui sont très bien faites sur les sources. Vous en avez dans votre édition. Il y a un article de Georges Forestier sur le travail des sources dans Racine, dans Andromaque, pardon, qui est accessible sur Internet assez facilement. Je vais passer assez vite là-dessus. Hein, mais dans les sources antiques, c'est-à-dire essentiellement d'abord l'Énéide et l'Andromaque de Ripide, qui sont cités par Racine dans sa préface, mais aussi sans doute les Troyennes de Ripide, en partie. Dans les sources antiques, Pyrrhus a aimé Andromaque, il a eu un fils d'elle, Molossos, mais il a abandonné Andromaque, et il a choisi d'épouser Hermione. Donc, l'invention de Racine, c'est d'abord que Pyrrhus aime Andromaque et envisage de l'épouser, et qu'elle a un fils qui n'est pas leur fils commun, mais qui est le fils d'Hector. Et donc, il pourrait sauver ce fils. Là encore, on a montré que il y a sans doute des modèles contemporains qui ont influencé, qui ont joué dans cette invention racinienne, en particulier la Pertharite de Corneille, qui est déjà citée par Voltaire au XVIIIe siècle, hein, comme source possible de Racine, l'Hercule mourant de Rotrou, une tragédie de 1636, où pareil, il y a Hercule qui est amoureux de sa captive et qui délaisse sa femme légitime, ou encore la Troade de Salbrey en 1640, dans laquelle Agamemnon est amoureux de Cassandre et est prêt à essayer de sauver sa sœur et son frère et son neveu, Astyanax, donc, qui sont menacés par les Grecs. Bon, donc voilà, tout ça, vous pourrez lire des choses plus précises dessus, mais quelles que soient les sources d'où il tire ça, Racine construit cette fameuse chaîne pastorale de mépris successifs. Hein, tous les personnages aiment un personnage qui leur échappe. L'amour devient désir de ce qui échappe. Et la singularité de Racine, c'est qu'il traite beaucoup cette question du mépris. C'est un terme qui revient, je n'ai pas compté le nombre d'occurrences, mais vraiment c'est très fréquent dans la pièce, hein, l'importance du terme mépris. Et les réactions qu'il suscite, la frustration, l'humiliation, sont très nettement caractérisées chez les personnages. Par exemple, Hermione, quelle honte pour moi, quel triomphe pour lui de voir mon infortune égaler son ennui. Elle évoque Oreste. L'ingrate qui mettait son cœur à si haut prix apprend donc à son tour à souffrir des mépris. Le mépris de l'autre suscite la honte, l'humiliation et engendre une réaction de colère et de haine. C'est vraiment ce mécanisme-là qui est singulier dans le traitement que Racine fait de la chaîne pastorale, qui par ailleurs se retrouve donc dans la pastorale, mais pas traitée sur ce mode-là. Et du coup, l'amour galant, hein, l'amour, le modèle de l'amour contemporain qui est l'amour galant, est complètement subverti chez Racine. Le modèle de civilisation de la galanterie devient au contraire un facteur de folie, de violence et de perversion. Alors je reviendrai sur ce thème-là dans la deuxième partie. Mais j'insiste quand même sur le lien avec l'amour galant. Les personnages, à plusieurs reprises, signifient le caractère hors d'eux-mêmes dans lesquels les plonge la passion. Hermione, je crains de me connaître en l'état où je suis vers 428. Non, je ne vous ai pas mis ces citations-là. Ou Pylade à Oreste, dans la première scène de l'acte 3, « Modérez donc, Seigneur, cette fureur extrême, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus vous-même. » Et donc, bien sûr, derrière tout ça, il y a aussi le modèle de la fureur sénéchienne. Hein, donc, le modèle de la galanterie est mélangé avec la fureur sénéchienne, et puis traité à la façon racinienne. Et la perversion de cet amour se traduit, notamment chez les héros raciniens, par un plaisir pervers, donc, à voir les autres souffrir. Hein. Les trois personnages les plus passionnés de la pièce évoquent à plusieurs reprises leur plaisir de voir l'autre souffrir. Donc il y a Andromaque qui dit à Pyrrhus, scène 4, acte 3, n'est-ce pas à vos... Non, à Hermione, elle dit ça. N'est-ce pas à vos yeux un spectacle assez doux que la veuve d'Hector pleurante à vos genoux? Ou Oreste, qui veut partager sa souffrance avec Hermione, au vers 759, non, non, à mes tourments, je veux l'associer. Bon, et il y aurait d'autres citations possibles, mais je passe pour en venir donc à la représentation des passions dans Andromaque. Alors, je vois qu'il faut que j'aille assez vite. Donc, d'abord, les passions sont vraiment un moteur de la dramaturgie, et tout ça est déjà mis en place dans la scène d'exposition, dans l'acte d'exposition, mais déjà dans la scène d'exposition où Pylade expose à Oreste la situation. On voit comment Pyrrhus est déjà pris dans un mouvement d'aller-retour vis-à-vis d'Andromaque. Comment Andromaque est inflexible, hein, cette veuve inhumaine que Pylade caractérise dès la première scène. Hein, elle est inflexible. Pyrrhus est donc pris dans un mouvement d'aller-retour. Et Oreste, lui, est déjà habité par la fureur. Hein, donc tout ça est mis en place très vite. Et on voit que ce sont donc les passions qui vont dynamiser l'action, motiver les différentes étapes de cette construction dramatique. Et un des facteurs qui fait évoluer l'action, c'est le fait que l'amour, cette passion amoureuse, trompe les personnages et les aveugle, et qu'ils s'en servent parfois pour tromper les autres. Donc il y a des stratégies des personnages pour obtenir l'objet de leur désir, qui vise donc à les tromper, mais ces stratégies fonctionnent d'autant mieux que l'amour aveugle. Alors ça, il y a donc plein de situations et de citations hein, qui montrent ça. Donc cette capacité de l'amour à aveugler, ça justifie des comportements inconstants. Ça justifie que les personnages changent d'attitude, et donc ce sont ces mouvements d'inconstance qui font progresser l'action. Il y a un cadre vraisemblable, finalement, l'amour rend aveugle, donc il est vraisemblable que Pyrrhus change d'avis tout le temps, que les personnages croient tout d'un coup que Hermione puisse croire Pyrrhus fidèle, par exemple. Par exemple, quand Pyrrhus veut retourner voir Andromaque alors qu'il a décidé fermement d'épouser Hermione et que Phénix lui demande pourquoi il veut vraiment aller voir Andromaque, sans bien qu'il y a là un risque, Pyrrhus répond « Crains-tu pour ma colère un si faible combat d'un amour qui s'éteint, c'est le dernier éclat. Hein, » Donc, illusion, bien sûr, de Pyrrhus. Voilà. Alors, bon, pour une analyse de l'importance de la passion chez Racine et dans sa dramaturgie, vous pouvez par exemple regarder l'article de Denis Cambouchner sur Racine et les passions cartésiennes. Que, voilà. Mais là, je ne vais pas m'arrêter dessus parce que je n'ai pas le temps. Alors, les caractéristiques de la passion racinienne, des passions d'Andromaque, j'imagine que vous avez déjà pas mal d'idées là-dessus. Bon, c'est d'abord la violence. L'amour est violent et il suscite la violence. L'amour est une passion irrépressible. Il est d'une puissance extrême, il est immaîtrisable. Donc, par exemple, Cléone à Hermione, il vous rapporte un cœur qu'il n'a pu vous ôter. Il vous aurait déplu s'il pouvait vous déplaire. Hein, donc, impossibilité de résister à la passion. Il faut désormais, dit Pyrrhus, que mon cœur, s'il n'aime avec transport, haïsse avec fureur. Donc, beaucoup de formulations de cette contrainte imposée par l'amour. Et puis, Phénix à Pyrrhus, quel charme, malgré vous, vers elle vous attire, avec cette, évidemment, signification de charme très forte au XVIIe siècle, hein, qui évoque la dimension magique, mystérieuse de cette puissance. Et au reste, plus que les autres, évoque cette puissance irrépressible de la passion, parce que lui, il use d'un vocabulaire hérité de la tragédie païenne antique. Hein, il reprend assez souvent le vocabulaire de la fureur, du destin, de la fatalité antique. Bon, je ne m'arrête pas sur la question du vocabulaire destin, transport, etc. Vous connaissez les changements que Racine a insérés dans son texte. Alors, par exemple, à l'acte 2, « Tel est de mon amour l'aveuglement funeste, vous le savez, madame, et le destin d'Oreste est de venir sans cesse adorer vos attraits et de jurer toujours qu'il n'y viendra jamais. Hein, » C'est son destin. L'amour est aussi présenté comme une passion immaîtrisable qui s'exprime notamment à travers le corps. Alors là, je m'arrête un petit peu sur les théories contemporaines sur les passions, hein, la sémiologie des passions qui est développée dans plusieurs traités contemporains, en particulier les caractères des passions de Curaux de la Chambre, qui sont écrits entre 1640 et 1662, et puis bien sûr le traité des passions de l'âme de Descartes. Alors, voilà comment Curaux de la Chambre décrit l'effet des passions. « C'est une chose certaine que le corps s'altère et se change quand l'âme s'émeut, et que celle-ci ne fait presque point d'action qu'elle ne lui en imprime les marques, que l'on peut appeler caractère, puisqu'ils en sont les effets et qu'ils emportent l'image et la figure. Bon, » on va trouver dans le théâtre de Racine, après Andromaque, beaucoup signes physiques de la passion, une grande importance donnée à ces signes physiques. Dans Andromaque, ça n'est pas, à mon avis, le plus notable, ça n'est pas si fréquent que ça dans Andromaque, ça le deviendra beaucoup plus après. Il y a la thèse, le livre récent de Sylvaine Guyot sur le corps racinien qui montre ça. Hein. Dans Andromaque, c'est moins fréquent, mais quand même, on voit apparaître un petit peu cette perte de maîtrise du corps induite par l'amour. Notamment à travers cette citation d'Oreste, « L'amour n'est pas un feu qu'on renferme en une âme, tout nous trahit, la voix, le silence, les yeux. » Et Hermione, « De tout ce que tu vois, tâche de ne rien croire. » Elle demande ça à sa suivante, à sa confidente, Cléone, « De tout ce que tu vois, tâche de ne rien croire. Hein, » Donc elle sait qu'elle pourra essayer de faire croire autre chose, mais ça se verra de toute façon. Donc l'amour, la passion se traduit dans le corps. Mais Racine radicalise justement cette dimension immaîtrisable de l'amour, puisque chez les théoriciens de l'époque, chez Descartes en particulier, l'amour est quand même, la passion en tout cas, est quand même, peut être dissimulée. Hein, c'est ce qu'il dit dans Les Passions de l'âme. Généralement, toutes les actions, tant du visage que des yeux, peuvent être changées par l'âme lorsque, voulant cacher sa passion, elle en imagine fortement une contraire. Donc il suffirait d'imaginer la passion contraire pour cacher sa passion. Or, chez les personnages raciniens, ça ne marche pas, ça. Ils n'arrivent pas à dissimuler leur passion, cette puissance de la passion. D'ailleurs, engendre une certaine conscience coupable chez les personnages. Et c'est un des aspects à travers lesquels s'exprime cet éthos des personnages, hein, ce maintien de l'éthos, parce qu'ils ont conscience, ils se voient tomber dans la passion. Hein, par exemple, Hermione, et pour comble d'ennui, mon cœur, mon lâche cœur s'intéresse pour lui. Ou au reste, je sais que vos regards vont rouvrir mes blessures, que tous mes pas vers vous sont autant de parjures, je le sais, j'en rougis. Donc, et l'amour est violent et il suscite la violence. Donc là, j'ai déjà évoqué cette articulation mépris, colère, violence. Et un couple très présent dans la pièce, il y a énormément de citations, on pourrait en faire la liste, qui désigne l'instabilité entre l'amour et la haine. Hein, c'est vraiment très très fréquent dans la pièce. Voilà, je passe un peu plus vite. Alors, bon, là, j'ai montré l'amour, enfin, j'ai montré ce qui était commun à peu près à tous les personnages passionnés. J'ai essayé de dresser un tableau rapide des caractéristiques de l'amour racinien, mais bien sûr, il y a plusieurs formes d'amour chez Racine. C'est quelque chose qui a été souligné notamment par Jean Rohoux dans son ouvrage « Avez-vous lu Racine ?» ou par Philippe Sellier aussi, hein, qui s'élève contre une vision unique de l'amour racinien, contre une vision universalisante de l'amour comme force fatale chez Racine. En fait, il y a plusieurs formes d'amour. Alors, Jean Rohoux distingue 5 formes d'amour, fait une sorte de typologie, avec le dévouement héroïque ou chevaleresque, qu'on peut effectivement voir chez Oreste, quand il est prêt à tout faire pour servir Hermione. La galanterie, bien sûr, notamment dans le discours d'Oreste aussi, quand il dit « Vos yeux ont tant de puissance, Hermione, que Epirus ne pourra sans doute pas y résister, etc. » L'ambition de conquête, ça c'est une caractéristique importante, évidemment, parce que ce qui est en jeu, notamment chez Pyrrhus et Hermione, ce n'est pas seulement le désir d'être aimé de l'autre, mais c'est aussi l'amour propre. C'est un amour conquérant qui traduit aussi une volonté de puissance et de domination. Et puis on a aussi l'amour comme passion tragique, passion mélancolique chez Oreste, et le pur amour réciproque, alors qui dans Andromaque est présent uniquement à travers l'amour virtuel de Andromaque et Hector, mais amour qui est assez ambigu, j'y reviendrai plus tard. Donc bref, il n'y a pas de vision univoque de l'amour parce que ce sont aussi des visions subjectives qui nous sont confiées par des personnages. Chacun se rêve finalement en amoureux. Ça, c'est quelque chose qui est développé notamment par Anno Wellfringer dans la préface, dans l'édition du programme. Donc je passe. J'insiste simplement sur Andromaque, donc, parce qu'elle aussi, chez elle aussi, il y a une dimension de mise en scène. Parce qu'elle peut paraître exclue de la sphère des passions dans la pièce, mais en réalité, on peut aussi la penser comme un personnage passionné, notamment à travers cette dimension de mise en scène d'elle-même, qui est décrite par Pyrrhus au vers 649-654. « Sa misère l'aigrit et toujours plus farouche, 100 fois le nom d'Hector est sorti de sa bouche. Vainement à son fils, j'assurais mon secours. C'est Hector, disait-elle, en l'embrassant toujours. Voilà ses yeux, sa bouche et déjà son audace. C'est lui-même, c'est toi, cher époux, que j'embrasse. » Il y a une ambiguïté, évidemment, dans ce caractère d'Andromaque, qui, évidemment, peut incarner la fidélité admirable à son mari défunt, mais aussi une forme de folie fanatique ou de zèle excessif. Et les metteurs en scène, parfois, l'ont interprété dans ce sens. Ou bien, troisième hypothèse, cet excès d'affirmation et de mise en scène de l'amour pour Hector pourrait aussi être le masque d'un amour interdit, d'un amour qu'elle ressentirait pour Pyrrhus. Bon, c'est notamment un des aspects de la mise en scène que Mesguich avait fait de la pièce, hein, qui mettait beaucoup ça en évidence. Amour pour Pyrrhus qui pourrait s'exprimer aussi dans la scène que Racine a supprimée, vous savez, au cinquième acte où Andromaque revenait et se présentait en veuve de Pyrrhus après la mort de celui-ci. Dernier aspect, la physiologie des passions. On peut aussi voir dans les personnages des incarnations de différentes humeurs passionnelles. Donc Pyrrhus pourrait incarner le sang, hein, qui est source de courage, mais qui en excès génère de la violence, de l'emportement, Donc il pourrait être donc sanguin, au sens de la théorie des humeurs qui est héritée de Galien et qui est importante à l'époque. Hermione, elle, serait plutôt du côté de la bile, qui peut être, quand elle est modérée, désir de justice, qui peut susciter le désir de justice, la colère devant les injustices, mais qui, quand elle est en excès dans un corps, génère la folie vengeresse, la colère, la fureur vengeresse. Andromaque, elle, serait du côté de la lymphe, qui est l'humeur de la modération, mais qui peut causer de la faiblesse, de l'indécision quand elle est en excès. Et au reste, lui, du côté de la bile noire, avec cette mélancolie qui est abondamment décrite, notamment dans la première scène. Et qui peut déclencher donc cette mélancolie, cette bile noire, de l'obsession, une forme de folie, de délire, qui évidemment éclaire chez Orestes. Donc voilà, donc en fait, il n'y a pas du tout une seule vision de l'amour, il y a plusieurs visions de l'amour dans la pièce. Aspect qu'il faudrait traiter aussi, c'est celui de la rhétorique de la passion. Je passe très vite, comment s'exprime la passion? Vous savez qu'il y a eu cette fameuse thèse de Léo Spitzer sur la sourdine racinienne, bon, qui a été un peu remise en cause. Ça a été repris d'une autre façon par Gilles de Clerc à travers la notion de sobriété. Dans cet article qui s'appelle « Représenter la passion, la sobriété racinienne », dans « Littérature classique numéro 11 », vous avez tous ces éléments dans la bibliographie de votre édition. Voilà. Alors, en gros, l'idée, c'est que Racine reprend des éléments de la théorie du grand style romain, qui, pour exprimer la passion, utilise la véhémence, mais qui la tempère d'une certaine façon. par des aspects de l'urbanité, une qualité rhétorique valorisée notamment par Guès de Balzac à l'époque, enfin qui n'est pas seulement une caractéristique rhétorique, l'urbanité c'est aussi un art de plaire sur le plan social, mais ça se traduit dans la langue par une place importante donnée à la simplicité, à la brièveté, à la retenue, donc cette élégance discrète. Voilà. Et Racine, en fait, aurait un style qui allie les deux, c'est-à-dire à la fois violence de la passion, mais exprimée dans une forme retenue. Bon. Et il y a une influence là-dedans du sublime, cette théorie qui aussi prend beaucoup d'importance à l'époque, via Boileau, qui va traduire, vous savez, le texte du pseudo-Longin. Et donc, cette tension, finalement, dans la forme, entre véhémence de la passion et retenue de la forme, cette tension, c'est caractéristique du sublime, de l'effet du sublime. Donc il y aurait une influence de ça. Je vous renvoie à l'article de Gilles de Clerc sur ces questions-là. Et je passe pour en arriver à la troisième partie, très rapidement. Donc est-ce que, voilà, la question de la troisième partie, c'est est-ce qu'on peut dire que Andromaque est une tragédie galante? Est-ce qu'on peut dire que c'est une tragédie janséniste? Est-ce qu'on peut dire que c'est une tragédie absolutiste? Les trois thèses ont été soutenues par la critique, par des critiques, et les trois peuvent être remises en cause, bien entendu. Donc, tragédie galante, j'ai déjà montré qu'en fait, la galanterie était très largement pervertie dans la pièce, que Racine prenait appui sur le langage de l'urbanité à la mode et de la galanterie, mais pour donner à sentir combien sous les dehors polissés de celle-ci, l'humain reste tributaire des pulsions que la civilité raffinée s'efforce de maîtriser. Hein, donc, voilà, il montre l'envers aussi de cette civilité raffinée et de cette galanterie qui cherche à enfermer justement les excès passionnels. Désolée pour la rapidité. Une tragédie janséniste. Alors, bon, le jansénisme, je reviens très... Donc, c'est la thèse notamment de Lucien Goldman, vous savez, dans Le Dieu caché. Donc, le jansénisme voudrait que les hommes aient été abandonnés par Dieu et qu'ils soient dominés par la passion qui serait le signe de leur corruption depuis la faute d'Adam, depuis le péché originel. Et donc, personne n'est exempt de ces passions qui sont le signe de la corruption, sauf quelques élus qui sont désignés par Dieu selon le principe de la grâce efficace. Bon. Et donc, les personnages racéniens peuvent être vus comme des justes à qui la grâce a manqué. Bon, c'est précisément ce principe de la double face. C'est-à-dire que ce sont potentiellement des justes, mais la grâce leur a manqué, et donc ils restent englués dans cette corruption. Bon. On a dit ça, mais en fait, notamment Philippe Sellier montre que en aucun cas, Andromaque ne peut être un modèle janséniste. La vision du monde impliquée par l'ensemble des tragédies est en contradiction avec tout augustinisme possible, écrit Philippe Sellier. Là où Saint-Augustin voyait la corruption universelle, hormis quelques élus. Les tragédies de Racine, donc, affirment l'innocence universelle, hormis quelques monstres. Hein. Ça, un des points importants de son argumentation, c'est que les personnages raciniens sont présentés comme des exceptions, en fait. Hein. C'est pas du tout, il n'y a pas du tout de vision de volonté universalisante dans la représentation racinienne. Voilà. Donc, je passe là-dessus. Et la question de la tragédie absolutiste, est-ce qu'on peut voir dans Andromaque une tragédie qui ferait l'éloge de la monarchie? Alors c'est vrai qu'au fond, la logique qui l'emporte dans la tragédie, c'est une logique politique. C'est-à-dire que si Pyrrhus meurt, ça n'est pas sous le coup d'Oreste, c'est sous le coup du peuple grec, et donc c'est plutôt un meurtre politique. Au fond, ce qui triomphe à la fin, c'est Andromaque, et c'est le règne d'Astyanax et d'Andromaque. Donc il y a une espèce de présence comme ça de la politique qui est en dehors du monde des passions, hein, qui est comme une sorte de transcendance qui s'impose finalement dans un ordre juste, malgré le désordre passionnel qui domine par ailleurs. Et justement, la politique absolutiste s'est définie par son caractère dépassionné. Hein, elle s'est construite au sortir des guerres de religion. Hein, vous savez qu'on lit l'histoire politique du XVIIe siècle. On a pu le lire. Alors ça, c'est notamment ce qu'a fait Koselleck, et ces théories sont reprises par Hélène Merlin-Cajman, notamment dans L'absolutisme et les lettres, je vous y renvoie. C'est l'idée que l'absolutisme aurait été une réponse aux guerres de religion. Les guerres de religion, donc soulevées par la passion zélée des deux camps, que la politique s'est définie comme dépassionnée, justement, pour pouvoir remettre l'ordre. C'est-à-dire que si la politique était animée par le zèle d'un côté ou de l'autre, ça ne permettait pas de mettre fin. Et donc la politique, l'État moderne, s'est défini au sortir de religion comme un État rationnel qui suit une logique de l'intérêt d'État, de la raison d'État, qui n'est plus du tout animée par la passion, hein, le zèle idéologique. Et donc, voilà, on pourrait voir dans Andromaque une représentation de la victoire de cette politique dépassionnée face au monde des passions. On pourrait le lire comme ça, mais en même temps, néanmoins, la tragédie s'achève sur la folie d'Oreste et pas sur la victoire d'Andromaque, précisément. Et ce qui domine, évidemment, dans la réception du spectateur, ce qui reste la trace de la pièce, semble plutôt être du côté de la passion que du côté de la raison politique. Donc voilà, je conclue très rapidement sur cette idée qu'en réalité, malgré le modèle de la contagion émotionnelle, le modèle théorique qui voudrait qu'on puisse décider de la réception du spectateur d'une façon très univoque comme ça, en étant un auteur qui ressent une passion, qui la transmet à son personnage, qui la transmettra au spectateur, en réalité, la réception est évidemment hétérogène. Il y a des spectateurs dans la salle, chacun peut recevoir le spectacle à sa façon, et il semble que l'esthétique racinienne soit une esthétique qui mélange, qui se sert de voilà, de beaucoup de courants contemporains et qui construit une dramaturgie contradictoire du conflit qui permet en fait des réceptions différentes. On peut lire Andromaque comme un personnage positif ou négatif. Il y a effectivement une coprésence d'une logique passionnelle et d'une logique politique et chacun, selon sa réception, pourra lire des choses différentes. C'est d'ailleurs ce qui permet de mettre en scène la pièce de façon très variable et renouvelée sans cesse. Voilà, je suis désolée, j'ai été très vite.